VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le vendredi 14 septembre 2018. À la une ce soir, en Côte d'Ivoire, le parquet enquête sur des détournements de dizaines de milliards de francs CFA. Au Mali, libération de deux militants de l'opposition après une détention jugée arbitraire. Au Nigeria, le président Buhari nomme un nouveau chef des renseignements. Aux États-Unis, l'ouragan Florence a fait ses deux premières victimes en Caroline du Nord. Dans la tranche magazine, coup de projecteur sur Jonito, chanteur du pénitencier au Burkina Faso.
Les conditions de vie, vraiment, c'est pas du tout bien. En tant que détenu, tu as les mêmes problèmes.
Et puis, ne manquez pas vos rendez-vous avec l'économie et les sports en fin de journal. En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a saisi le parquet de 15 dossiers portant sur des dizaines de milliards de francs CFA. Le procureur de la République, Richard Adou, indique que les procédures visent un magistrat, des directeurs financiers, des élus, un administrateur civil, d'anciens directeurs généraux, d'entreprises privées et publiques et de sages-femmes. Les faits reprochés aux personnes mises en cause s'articulent autour de la corruption, de l'abus de fonction, de détournement de deniers publics et privés, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Au Mali, deux militants de l'opposition ont été remis en liberté après plus de deux semaines d'une détention jugée arbitraire, alors que l'opposition s'apprête à manifester à nouveau demain, samedi, pour réclamer plus de transparence pour les élections. De Bamako, Kassim Traoré.
C'est à la suite des démarches enclenchées auprès des organisations de défense des droits de l'homme que Moussa Kimbiri et Paul Le Bourreau ont été libérés. Maître Abdramane Ben Mamata Touré, avocat des deux personnes.
Et le 3 septembre, nous avons écrit au procureur général de la Cour d'appel afin qu'il donne des instructions au procureur de la Commune pour procéder à la libération pure et simple de policemen de Moussa Kimbiri. Parce que nous avions en tout cas mis en évidence à travers un constat du au niveau du registre des gardes à vue constaté que la garde à vue a expiré et malgré cela, ils étaient en tout cas dans les locaux de service d'investigation EGR.
Malgré cette libération, les deux doivent se présenter quotidiennement au niveau du service judiciaire de la gendarmerie, ce qui n'est pas du goût de leur avocat.
On n'acceptait pas du tout cette forme de contrainte qui, pour nous, encore une fois, s'inscrit dans le cadre de l'illégalité la plus totale. Si on était dans le cadre d'un contrôle judiciaire, les mesures de cette nature peuvent être prescrites, mais...
La libération de Polo et Moussa Kimbiri intervient au moment où l'opposition s'apprête à organiser une grande marche contre la fraude demain. Ils seront de cette manifestation, selon Noum Togo, secrétaire à la communication de l'opposition. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Congo, Brazzaville, des ONG réclament une enquête indépendante avant que ne débute le procès sur la mort en juillet dernier de 13 jeunes dans un commissariat de police de la capitale. De Brazzaville, le correspondant de VOA Afrique, Arsène Séverin.
Les ONG, menées principalement par l'OCDH, ont dénoncé dans un rapport une enquête bâclée, vite menée et bouclée en un temps record. Pour le directeur exécutif de l'OCDH, Trésor Nzila Kende, la justice a été complaisante dans la qualification des faits, soulignant que le drame de Chakona n'est pas un simple délit d'homicide involontaire, mais un crime. Il a demandé à la justice d'annuler le procès prévu pour le 24 octobre prochain pour mettre en place une enquête indépendante dans laquelle seront impliqués les ONG et les parents. Nous voulons d'un vrai procès et non de ce qu'ils sont en train de faire, a dit Trésor Nzila Kende, ajoutant que la société civile souhaitait la transparence dans cette affaire. Pendant la publication de leur rapport devant les médias, les ONG ont rappelé que les autorités devaient effectuer l'autopsie sur les corps des 13 jeunes. Elles ont ensuite déclaré s'être constituée partie civile et engagé trois avocats du barreau de Brazzaville pour suivre cette affaire. Dans la nuit du 23 juillet dernier, 13 jeunes ont été retrouvés mort dans un commissariat de police à Brazzaville. Le procès devait normalement s'ouvrir dans un mois et six policiers, dont un adjudant-chef, répondront à l'appel du juge. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Controverse au Nigeria suite au limogeage du chef des services secrets nommé récemment par le vice-président alors que le président Muhammadu Buhari était en congé de 10 jours à Londres. Des leaders du sud du pays ont rejeté cette nomination. Désigné il y a à peine un mois, Matthew Siyefa a été relevé de ses fonctions hier soir et remplacé par Youssouf Magaji Bichi à Abuja. Le compte-rendu de notre correspondant Gilbert Tamba.
C'est dans un communiqué que le porte-parole du président nigérien a annoncé la nomination de Youssouf Magaji Bichi au poste très convoité du chef des services de renseignement du Nigeria. Il remplace à la tête de cette institution Matthew Siyefa, nommé il y a juste un mois par le vice-président Yemi Osinbajo. Ce dernier avait limogé le 8 août dernier notre proche du président Muhammadu Buhari, Lawal Daura, pour faute lourde. Mais depuis le retour de Buhari de son congé de 10 jours qu'il a passé à Londres, rien n'allait plus entre les deux hommes à cause de limogeage de Lawal Daura. Les médias locaux avaient dans leur publication annoncé ces derniers temps un changement imminent ou un retour de Daura à la tête des services secrets. Cependant, la nomination de Youssouf Magaji Bichi, un autre nordiste à ce poste, passe mal auprès des sages de la région du site pétrolier du Nigeria, la région natale de Matthew Siyefa, limogé hier soir par Mohamed Buhari. Il rejette la nomination et affirme dans une déclaration, je cite, « Cela montre que le président ne se soucie pas de l'unité et de la cohésion nationale du Nigeria », fin de citation. Candidat à sa propre succession à un second mandat, ce dernier virage de Muhammadu Buhari pourrait avoir un impact négatif sur l'électorat de la région du Delta du Niger pour sa réélection en 2019. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Cour d'appel de Paris a invalidé la saisie en France d'avoir du Congo dans un litige qui oppose depuis plus de 20 ans Brazzaville à un homme d'affaires libanais. L'affaire remonte au début des années 80. Mohsen Ogei, proche du président Denis Sassou Nguesso, avait décroché plusieurs contrats entre 1983 et 1986. Construction d'un pont, d'un village. Mais en 1986, après l'effondrement des cours du brut, Monsieur Ogei a multiplié les recours pour récupérer son argent. La somme d'une ne cessant de gonfler pour atteindre plus d'un milliard d'euros, d'après Kevin Grossman, l'avocat du Congo. Signature ce dimanche en Arabie Saoudite d'un accord de paix Éthiopie-Érythrée, d'après l'ONU, un accord cimentant la réconciliation engagée en juillet dernier entre les deux pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, assisteront à cette cérémonie de signature organisée par le roi saoudien Salman. Quelques 18 000 migrants clandestins sont arrivés en Europe par voie terrestre depuis janvier, cette fois plus que l'an dernier à la même période. C'est ce qu'indique l'ONU ce vendredi, précisant que la route la plus fréquentée est celle de la Turquie vers la Grèce. L'augmentation des arrivées par voie terrestre coïncide avec une baisse des arrivées par voie maritime, alors que la route depuis la Libye est rendue de plus en plus difficile par l'augmentation des patrouilles des gardes-côtes libyens.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, l'ouragan Florence a fait ses deux premiers morts aux États-Unis, une femme et son bébé, en Caroline du Nord. Ils ont été tués lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Le père a été blessé et hospitalisé. Accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, l'ouragan a touché terre en Caroline du Nord ce vendredi matin. Abdourahman Dia.
Des opérations de sauvetage sont en cours sur la côte atlantique des États-Unis pour venir en aide à des personnes coincées par la montée des eaux et qui avaient ignoré l'ordre d'évacuer. En Caroline du Nord, les secouristes ont mis à l'abri entre 150 et 200 personnes dans la ville de New Bern sur les flancs d'une rivière. Les opérations se poursuivaient pour tenter d'aider d'autres dizaines de résidents. Sur Twitter, la mairie s'est voulue rassurante pour ses administrés. « Nous allons vous sortir de là. » Vous allez peut-être devoir monter au deuxième étage ou dans le grenier, mais nous arrivons, a-t-elle écrit. À Jacksonville, plus de 60 résidents d'un hôtel ont été mis à l'abri cette nuit après l'effondrement d'une partie du toit, selon les autorités locales. Déjà, des centaines de milliers de personnes sont sans électricité et la situation pourrait s'empirer. Florence, malgré sa rétrogradation en catégorie 1, s'accompagne de vents violents et de pluies torrentielles. Les zones côtières de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud sont touchées de plein fouet. L'ouragan doit se diriger samedi vers l'intérieur.
Toujours aux États-Unis, Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a plaidé coupable ce vendredi d'association de malfaiteurs contre les États-Unis et d'entrave à la justice. Et il a accepté de coopérer avec le procureur spécial Robert Mueller dans l'enquête russe. L'ancien lobbyiste de 69 ans a déjà été reconnu coupable en août dernier de fraude bancaire et fiscale. La Maison-Blanche affirme ce vendredi que la décision de Paul Manafort n'a absolument rien à voir avec le président américain. Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump, a défendu la cascade de décisions punitives visant les Palestiniens. Il estime qu'elles n'empêcheront rien d'aboutir à la paix au Proche-Orient. Au contraire, dans un entretien accordé au New York Times, jeudi, jour de la fermeture de la mission diplomatique palestinienne à Washington, M. Kushner assure que la méthode finira par payer. L'autorité palestinienne a gelé tout contact avec le gouvernement américain depuis que la Maison-Blanche a reconnu en décembre dernier Jérusalem comme capitale d'Israël. L'ONU alerte ce vendredi sur la situation alarmante au Yémen où l'aide humanitaire a été prise pour cible dans la ville stratégique de Hodeïda. Depuis l'échec la semaine dernière des pourparlers de Genève sur le Yémen où les rebelles contrôlent de vastes territoires dans l'ouest et le nord du pays, des combats meurtriers ont repris autour de cette ville portuaire, point d'entrée crucial pour l'aide humanitaire. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Chérubin Dorsil.
Envol Immobilier, une société sénégalaise, vient de gagner le contrat de construction de l'université de San Pedro en Côte d'Ivoire. Le coût du projet est estimé à 95 milliards de francs CFA. Selon le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la société devra s'activer afin de livrer dans les délais le nouveau joyau dont l'ouverture est prévue pour octobre 2020. La future université devrait accueillir à terme quelques 20 000 étudiants dans les filières de construction navale, d'agriculture et de tourisme. La Royal Air Maroc a annoncé le lancement le 2 avril 2019 de la ligne Casablanca-Athènes. Cette nouvelle liaison, qui sera disponible 3 fois par semaine à bord d'un Boeing 737-700, renforcera les relations économiques et les échanges non seulement entre le Maroc et la Grèce, mais aussi avec le continent africain qui bénéficiera du hub de Casablanca pour atteindre la Grèce, bien sûr, et des pays d'Europe de l'Est. Toujours dans le domaine de l'aviation, Kenya Airways reviendra le mois prochain au Gabon à la suite en partie de la certification de l'aéroport international Leomba de Libreville le 30 août dernier. La compagnie kenyane a en effet annoncé le 13 septembre, à l'issue d'une réunion à Libreville, son retour sur la plateforme aéroportuaire de la capitale gabonaise après l'avoir quitté en 2014.
Et maintenant, un résumé de l'actualité sportive avec nous en studio, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Alors les quarts de finale de la Ligue des Champions débutent aujourd'hui.
8 fois vainqueur de la Ligue des Champions, Al Ahly a tenu son rang en assurant le match nul contre Oroya 0-0 ce soir à Conakry en quart de finale aller de la compétition. Tout se jouera donc dans une semaine au retour en Égypte, un match que les hommes de Patrice Carteron aborderont en position de force malgré l'absence de but à l'extérieur. Demain, les surprenants angolais de Primeiro de Agosto et les congolais du TP Mazembe croiseront les crampons. De leur côté, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel s'affronteront dans un choc fracticide entre Tunisiens.
La Libye veut jouer en Algérie.
Oui, Jacques, toujours privé de match à domicile en raison des conditions sécuritaires, la Libye a disputé son premier match des éliminatoires de la CAN 2019 face aux Seychelles à Tunis en juin 2017. Les chevaliers de la Méditerranée doivent recevoir le Nigeria le 15 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, toujours lors de la 4e journée. Et pour cette rencontre et la dernière en novembre contre l'Afrique du Sud, le président de la Fédération libyenne de football, Jamal Al-Jafari, a demandé à jouer en Algérie.
5 candidats pour remplacer Kwesi Nyantakyi à la vice-présidence de la CAF.
Elvis Chetty des Seychelles, Leodegar Tanga de la Tanzanie, Nick Mwandwa du Kenya, Walter Nyamilunda Manda du Malawi et Danny Jordan de l'Afrique du Sud sont en lice pour succéder à l'ex-président de la Fédération ghanéenne de football, qui était aussi vice-président de la CAF. L'élu sera connu le 30 septembre à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF en Égypte. Donc, Kwesi Nyantakyi a démissionné de son poste de vice-président de la CAF suite au scandale de corruption qui a secoué le football ghanéen.
Et pour terminer, nouvelle mise en examen pour Lamine Diack.
Et oui, la justice française reproche à l'ex-patron de l'athlétisme mondial d'avoir permis à l'un de ses fils, Papa Massata Diack, conseiller marketing de la fédération, de s'approprier des recettes de l'organisation provenant des sponsors. Le Sénégalais de 85 ans, président de l'IAF de 1999 à 2015, avait déjà été mis en examen en France dans l'enquête pour corruption sur fonds de dopage en Russie.
Yacouba Ouedraogo, merci bien Yacouba. Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Cap d'emblée sur la République démocratique du Congo, où les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu viennent de se doter d'une feuille de route pour éradiquer les groupes armés. Ce plan d'action a été adopté hier à l'issue d'un forum interprovincial de 2 jours sur la persistance des groupes armés dans cette partie du pays. De Bukavu, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Ernest Mouero.
La feuille de route adoptée prévoit une 30aine d'actions programmées et devrait être validée au niveau des gouverneurs des provinces, puis au niveau national en vue de la sortie d'un arrêté interministériel pour la mise en œuvre des actions de désarmement, démobilisation et réinsertion à l'échelle nationale. Deo Bouma est secrétaire exécutif de l'organisation APC, Action pour la paix et la concorde.
Des activités prioritaires qui peuvent désenclaver leur milieu et qui peuvent augurer de l'emploi.
Ces assises ont permis aux participants d'analyser sous la conduite des chercheurs, des causes de la persistance des groupes armés dans les territoires de Walikale, Masisi et Kalehe, en mettant autour d'une même table les experts de la présidence de la République, ceux du gouvernement central, les généraux des FARDC, la MONUSCO, les décideurs politiques des deux provinces, les députés notables et acteurs de la société civile. Dédé Mwamba, administrateur du territoire des Kalehe.
Lorsqu'on crée la confiance entre le gouvernement, les partenaires et la population, je pense qu'on trouvera facilement la solution. Ce qui nous a plus marqué, c'est de faire prendre conscience aux acteurs et que chacun puisse jouer les rôles qu'il faut afin que les groupes armés puissent déposer les armes, qu'on puisse les encadrer et qu'on puisse trouver des solutions d'une autre manière.
Nicolas Kialangalilwa, rapporteur adjoint de la société civile du Sud Kivu.
C'est une chose que nous avons toujours réclamée, parce qu'il est inconcevable que 12 ans exactement après les premières élections, il y ait encore des groupes armés, alors que nous ne sommes plus dans un état de guerre.
Hilaire Kikobia, vice-gouverneur du Sud Kivu, estime que c'est une continuité d'action dans le souci légitime de veiller à la quiétude de la population.
Plusieurs stratégies avaient déjà été prises en amont, mais on s'est dit qu'à cela n'est tienne, il faudra qu'on réfléchisse sur d'autres stratégies pour être considérées comme efficaces.
Ce forum a aussi donné l'occasion aux populations civiles qui vivent là où il y a des groupes armés de faire entendre leur voix. Hélène Foura est habitante de Walikale.
Nous vivons dans la peur, nous sommes traumatisés. Imaginez-vous tout le moment attendre des crépissements des balles, des cadavres, des pillages, de déplacements massifs, des violences sexuelles, des menaces, des mariages précoces et forcés. C'est horrible. Nous avons besoin d'être assistés.
L'administrateur du territoire des Kalehe, Dédé Mwamba, évoque la complexité du phénomène des groupes armés dans les Kivu.
Il y a aussi le problème des humanitaires qui ne peuvent pas appuyer ces milieux-là, étant donné que la situation sécuritaire ne les permet pas.
Les chercheurs Emery Moudinga a relevé que plusieurs groupes armés ont des motivations économiques et ethniques dans la région. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, les autorités sanitaires lancent une grande opération de contrôle des pharmaciens N'Djamena. Les équipes, composées de techniciens du ministère de la Santé, de huissiers de justice, de représentants des ordres des médecins et pharmaciens, d'agents du service de sécurité des communes d'arrondissement, ont 10 jours pour faire le travail. De la capitale tchadienne, le reportage du correspondant de VOA Afrique, André Kodmajingar.
Sous d'autres cieux, la pharmacie est détenue par les professionnels. Mais au Tchad, ce métier est banalisé. Il est donc devenu un commerce ordinaire que n'importe qui peut créer sans aucun respect des dispositions légales. Le constat a été fait par les autorités sanitaires qui décident d'aller en guerre contre ce faux corps médical. Aziz Mohamed Saleh est le ministre en charge de la santé publique.
Je demande au chef d'équipe de prendre toutes les mesures conservatoires à chaque constat d'irrégularité ou de pratique douteuse à travers une fermeture provisoire pour que, si besoin est, la situation soit régularisée avant une réouverture éventuelle.
Le président de l'Ordre des pharmaciens du Tchad, Dr Haroun Badawi, se réjouit de cette initiative. Toutefois, il demande aux hommes politiques de ne pas s'impliquer dans cette mission de contrôle.
Que les hommes politiques puissent laisser le ministère de la Santé les mains libres d'agir. Nous lançons un appel vers le ministère de la Justice de soutenir cette initiative parce que, bien avant, de contrevenants étaient décelés par le ministère de la Santé, mais une fois arrivés au tribunal, ils ont déclaré non-lieu ou bien ces gens sont simplement relaxés.
Le président de l'Ordre des médecins du Tchad, Dr Mayenam Djaounadji, salue cette décision, quand bien même qu'elle est complexe.
Ça paraît complexe parce que parfois ce sont des gens qui étaient à la base de ces ouvertures anarchiques qui se passent des contrôleurs. Alors, comment ils vont le faire, on ne sait pas. Les dépôts pharmaceutiques, en réalité, a été autorisé dans les années 1973. Il y avait un décret qui a permis à ce que les infirmiers retraités et les vétérinaires à ouvrir les dépôts pharmaceutiques. La décision qu'on doit prendre, c'est d'abroger ce décret de 1973 là. On en fait ça comme un commerce vulgaire, alors que ces médicaments peuvent tuer comme peut guérir.
Quelques consommateurs interrogés par VOA Afrique apprécient diversement cette décision.
Ça rapporte de l'argent, certes, sauf que ces médicaments ont des effets secondaires s'ils ne sont pas bien conservés.
Il m'arrive quelquefois où j'amène les enfants à l'hôpital et des ordonnances coûtent trop cher. Ça nous aide vraiment.
Quand vous débarquez chez quelqu'un qui n'a aucunement une notion basique, quel conseil celui-là il va vous donner? Vous achetez par exemple une plaquette de paracétamol, vous lui demandez combien de doses faut-il prendre, il vous dira que prenez 3 ou 4. Est-ce que c'est ça la dose normale?
Sur le terrain, ces agents contrôlent systématiquement le local, la qualification du gérant et du dépositaire, la liste des médicaments et l'uniformité du prix. Les produits à l'origine douteuse sont retirés des rayons. Des remarques ont été également faites sur certains médicaments qui ne sont pas autorisés à être vendus dans les pharmacies. André Godmadingar Ndjamena, VO Afrique.
VO Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Quelques 35 000 migrants africains vivent illégalement en Israël. Le gouvernement israélien a enfermé des milliers d'entre eux et proposé de leur verser 3 500 $ pour quitter volontairement le pays. Les tribunaux israéliens ont interdit ces détentions et les expulsions de migrants. En attendant, comment vivent ces migrants sur le sol israélien? Idriss Fall a joint Omar Niang, un Sénégalais qui a longtemps vécu comme immigré dans l'État hébreu.
Au quotidien, bon, c'est des gens qui vivent normalement parce qu'ils sont utilisés comme main d'œuvre par les Israéliens eux-mêmes. Ils vont au travail. Beaucoup d'entre eux font ce qu'on appelle en anglais la housekeeping. C'est-à-dire que c'est des gens de maison, la plupart d'entre eux. D'autres travaillent avec des commerces, de la place, comme on le met. C'est des gens qui réussissent au quotidien à vivre normalement. C'est l'une des raisons fondamentales qui font que beaucoup de gens optent pour aller immigrer en Israël.
Pour les Africains, ils viennent d'où et ils entrent comment?
La plupart des Africains viennent du Nigeria. On ne connaît pas les statistiques réelles. Ensuite, les Ghanaiens, c'est les pays anglophones qui vont là-bas la plupart du temps. Et ils utilisent le système du pèlerinage chrétien. Et ensuite, ils décident de rester dans le pays. D'autres utilisent d'autres voies. Avant, le Sinaï était utilisé, le désert du Sinaï. Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a comme terrorisme, avec la surveillance même des frontières par Israël, et puis le mur qui est construit entre les territoires et Israël, donc ce n'est plus facile pour le Sinaï. Mais les gens viennent la plupart du temps par le système du pèlerinage.
Mais on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'Érythréens et de Soudanais à cause de la proximité.
Oui, les Érythréens, ils sont à peu près comme les Éthiopiens. Les Éthiopiens, la plupart, ce sont des Juifs. Donc les Érythréens, en général, ils peuvent passer même inaperçus dans la communauté israélienne. On peut les confondre avec ce qu'on appelle les Falachas. La plupart viennent parce qu'ils sont persécutés. Si, par exemple, l'État d'Israël arrive à les prendre et à vérifier leur identité et qu'ils se rendent compte qu'ils sont érythréens. Si, par exemple, ces gens-là se sont déclarés au service des Nations Unies, le commissariat des réfugiés, là, pour jouir de la protection de ces institutions. l'immigration. Et là, ils ne se feront pas rapatrier. Le système de contrôle, le Parlement est libre, la Couronne elle est libre, les juridictions sont très libres.
Et pour les Africains, si on arrête des Nigérians, des Ghanaïens, est-ce qu'il est facile de les expulser?
Oui, on peut vous expulser. On vous renvoie chez vous avec votre passeport. Si vous n'en avez pas, on demande à votre ambassade, si vous avez une ambassade sur place, de s'occuper de vos documents de voyage. Et on vous rapatrie chez vous. Ils le font sans état d'âme. Quand vous n'êtes pas en règle et que vous êtes pris par la police israélienne, vous êtes rapatrié. Sauf si vous pouvez prouver, donner des raisons qui peuvent faire que vous restez, vous êtes en danger, ou si votre pays est instable, ou si vous êtes politiquement en danger, là, bon, si vous arrivez à prouver ça, vous restez dans le pays.
Omar Niang, un Sénégalais qui a longtemps vécu en Israël.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du diabète. Il s'agit d'une maladie chronique qui apparaît lorsque l'organisme ne produit pas ou n'utilise pas suffisamment de l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Pour en parler, nous recevrons le docteur Awambo Kan. Elle est diabétologue au Sénégal. Elle nous dira comment faire pour combattre la maladie. Nous écouterons aussi le témoignage d'un malade ainsi que du docteur Frédéric Sabiyumba, directeur d'un centre de lutte contre le diabète au Burundi. Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous.
Nous allons clore cette édition en musique avec un jeune rappeur de 25 ans nommé Jonathan Sougué, dit Jonito, au Burkina Faso. Eh bien, condamné pour cambriolage, il est détenu à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso, un lieu connu pour sa surpopulation carcérale et ses conditions de vie précaires. Même en prison, Jonito va sortir son premier album. Être en prison, c'est aussi un rêve de liberté pour le jeune poète des temps modernes. Son portrait avec Arzuma Compaoré.
Derrière les portes de la prison, un vrai studio d'enregistrement. Jonathan Sougué, surnommé Jonito, est détenu depuis près d'un an dans la prison de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Emprisonné pour complicité de cambriolage, il a commencé à enregistrer un album de rap pour donner un sens à ses activités quotidiennes. Jonathan Sougué dit Jonito, prisonnier rappeur.
Les conditions de vie, vraiment, c'est pas du tout bon. Parce que ici, en tant que détenu, tu as les mêmes problèmes. Voilà. La souffrance et tout. Il y a d'autres qui sont là, qui n'ont rien. D'autres même pour avoir à manger, c'est tout un problème.
Cet ancien commerçant a remporté un casting organisé par le musicien burkinabé Freeman Tapili.
En termes de réinsertion, la musique, ça peut beaucoup faire. Parce que moi, je vis de la musique. Et je pense que si quelqu'un a un talent, et il a un talent. Son talent est trois fois au-dessus du mien. Se réinsérer, ça, il va se réinsérer. Mais je pense qu'il pourra même faire réinsérer d'autres personnes et pourra embaucher des gens.
Ce type de projet est mis en œuvre pour aider les détenus à se réinsérer dans la société. Mais dans cette prison, comme dans d'autres pays, l'administration dispose de moyens limités pour investir dans de tels projets. Pascal Yabré, directeur régional de la sécurité pénitentiaire.
Le problème, c'est qu'on est confronté à souvent des problèmes de moyens qui font qu'on n'arrive pas, dans toutes les prisons, à avoir toutes les activités qui sied vraiment à la réinsertion sociale des détenus. Sinon, au niveau des textes, vraiment, il y a une politique affichée, mais les moyens ne sont pas souvent au rendez-vous.
Si l'administration pénitentiaire ne participe pas au financement de cette initiative venue de l'extérieur, elle l'encourage et facilite les démarches. Dans quelques mois, Jonathan demandera une liberté conditionnelle pour lancer officiellement son album. Une fois l'album terminé, l'équipe de Tapili produira 100 exemplaires que Jonito pourra distribuer et vendre lui-même, comme le font la plupart des musiciens burkinabés.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, notre sujet de la semaine. Est-il important ou nécessaire d'avoir une classe d'éducation sexuelle pour les jeunes? Ou mieux vaut les laisser découvrir d'eux-mêmes? Appelez-nous au 001-202-205-2633 pour participer en direct. Ou envoyez-moi un message sur WhatsApp ou Viber. Écrivez-moi au 001-703-350-3731. Suivez-nous aussi en live sur notre page Facebook VOA Afrique ou sur notre site internet www.voafrique.com. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et voilà, c'est ici que nous allons mettre un point final à cet épisode du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Sheikh Thierro. C'était notre ami Souleymane Traoré qui assurait la partie technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. À très bientôt. Take care.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM